Philosophie de la matière par le père Philippe Arimond, 15 décembre 1989, premier cours.
Je réponds aux questions. Puis après, on verra ce qu'on va faire. Qu'est-ce que le mouvement ? Par hasard, par rapport au mouvement naturel ou au mouvement artificiel. Le hasard est-il un mouvement ? Le hasard se manifeste à travers un mouvement. Le hasard, pour Aristote, et je crois qu'il a raison, ne peut se comprendre qu'à partir de la finalité. Donc, c'est un manque de finalité. Là où il n'y a pas de finalité, alors on est dans le hasard. Parce que l'aspect naturel est toujours finalisé. Donc, c'est l'opposition à l'égard du manque de finalité. Un mouvement qui n'a pas de finalité se produit par hasard. Et vous ne comprenez le hasard que par la finalité. C'est pour ça que quelqu'un comme Monod qui ne comprend pas ce que c'est que la finalité ne comprend pas ce que c'est que le hasard. Il chosifie le hasard. Parce qu'autrement, s'il ne chosifiait pas, ce qu'il dit est absurde. Bon, il est intelligent, donc ça prouve qu'il met sur le hasard quelque chose de tout à fait différent que nous. Et c'est vrai que pour Aristote, et donc dans notre manière de penser le réel, le hasard, c'est là ce qu'il n'y a pas de finalité. Vous creusez un trou pour y mettre un arbre, là il y a de finalité. Puisqu'on est habitué à ça, insisterons. On creuse des trous pour y mettre des arbres. Et tout d'un coup, en creusant le trou, il y a un bruit assez curieux. Vous regardez attentivement, vous trouvez un lingot d'or. Ou vous trouvez un crâne. Ce qui est moins agréable. Et vous le découvrez par hasard. Il n'y a plus, c'est en dehors de la finalité, en dehors de l'intention. C'est en dehors de la finalité. Et vous remarquez que ça peut se faire à cause de la matière. La matière est source d'errance, est source de hasard. C'est la causalité matérielle qui explique le hasard. Oui. Alors, je reprends. Qu'est-ce que le mouvement par hasard ? Qu'est-ce que le hasard, je dirais ? Dans le mouvement, ce serait plus juste de dire ça. Qu'est-ce que c'est que le hasard dans le mouvement ? Par rapport au mouvement naturel, c'est-à-dire par rapport à la finalité. Que ce mouvement soit naturel ou artificiel, il est finalisé. Tandis que le hasard, ça manque de finalité. Donc vous voyez bien, vous définissez négativement le hasard. Le hasard n'a pas d'intelligibilité en lui-même. Quand vous êtes en face de quelque chose qui arrive comme ça, vous êtes débordé. Vous n'avez plus. Vous avez parlé de la manière différente de comprendre le temps du philosophe et du chrétien. Pourriez-vous nous parler du lieu qui existe entre le temps et l'espérance, du lien qui existe. Il y a une petite variante hein, entre lieu et temps et lien. Et quand on écrit rapidement, le lien vient très facilement à un lieu. Du lien qui existe entre le temps et l'espérance, et nous dire ce que cela me modifie réellement dans le chrétien qui vit l'espérance. Bon, c'est sûr que l'instant présent est autre chose pour le philosophe que pour le croyant, que pour le chrétien. Pour le chrétien, l'instant présent, c'est le lien avec l'éternité. Et le chrétien vit l'éternité dans le temps présent, avec un sérieux beaucoup plus grand. Parce que l'éternité ne supprime pas l'instant présent. Mais l'éternité donne à l'instant présent une profondeur unique. Alors, pourriez-vous nous parler du lien qui existe entre le temps et l'espérance ? Le temps et l'espérance. L'espérance regarde ce qu'il y a d'ultime. On s'accroche à l'éternité, l'ancre, l'image de saint Paul qui est si forte. On est ancré sur l'éternité. Le chrétien est ancré sur l'éternité. Donc il peut y avoir de la tempête, il est ancré sur l'éternité. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de danger. La barque ne peut pas rouler. L'Église vit de l'espérance. Elle ne vit pas du temps. Différence entre le messianisme temporel et le véritable salut qui vient du Christ, qui nous sauve pour l'éternité. Alors, il est bien évident que l'espérance qui est ancrée sur l'éternité relativise le temps en lui donnant une profondeur nouvelle. Le chrétien doit respecter le temps. Et le laïc chrétien respecte le temps encore plus que le religieux. Vous voyez, tout ce qui est dit entre la différence entre celui qui est consacré et l'homme qui vit dans le monde, concis. L'homme qui vit dans le monde, le chrétien qui vit dans le monde, a une responsabilité à l'égard des causes secondes. Il respecte les causes secondes d'une façon très particulière. Et donc, il respecte le temps d'une manière très particulière. Parce que le travailleur, c'est celui qui a le sens du temps. Le travail nous donne un sens très aigu du sens du temps. Ça, c'est sûr. Il faut du temps pour travailler. Et tout le travail est toujours mesuré par le temps. Donc, les travailleurs ont un sens, les travailleurs intellectuels comme les travailleurs manuels, ont un sens très aigu du temps. Et un respect du temps. Un respect du temps des autres. Moi, ça me frappe beaucoup, ça. Il faut avoir... Et ça a toujours été... C'est très curieux que les vrais travailleurs ont un sens très étonnant du temps. Mon père, je m'excuse, je prends votre temps. Vous n'entendez pas ça de beaucoup de personnes. Mais des manuels et des savants qui ont un sens très aigu du temps par leur travail. Mon père, je vous prends votre temps. Tandis que dilettante, votre temps, vous en faites ce que vous voulez. Si c'est pas moi, ce sera un autre. Et vous dites ça allègrement. Alors, vous bouffe le temps comme si c'était rien du tout. Oui, réclame, parce que vous leur avez pas donné assez de temps. Comme si c'était leur droit. Il faut comprendre ces choses-là par votre expérience et comprendre, oui, le temps nous est donné gratuitement, c'est vrai. Nous n'avons aucun droit sur le temps au point de vue de notre pauvreté. C'est un domaine où la pauvreté et donc où l'espérance chrétienne, puisque n'oublions pas que le don de crainte est fait pour vivre divinement d'espérance. Et le don de crainte nous met dans la béatitude des pauvres. Et il faut la béatitude des pauvres pour vivre divinement l'espérance. Et à ce moment-là, le temps, nous le recevons comme un don gratuit de Dieu. On n'a plus aucun droit sur le temps. Donc on est disponible à la providence. Mais on ne veut pas perdre. des gamins.
Les Angers d'aujourd'hui.
Des gamins, ils perdent leur temps. Ils s'en fichent pas, ils n'ont rien à faire. C'est le propre de la capitale, ça. Oui. Alors, l'espérance relativise notre temps et donne au temps tout son sérieux divin. C'est Dieu qui nous donne ce temps. C'est Dieu qui nous fait vivre tant de temps. On reçoit gratuitement de Dieu, on n'a aucun droit. Par notre vie religieuse, le chrétien dans le monde a un droit sur le temps pour gagner sa vie. Ça, c'est sûr, c'est la différence entre le religieux et le chrétien. Il a un droit sur le temps pour gagner sa vie pour ses enfants, pour son foyer. Nous, vivant dans la pauvreté, nous avons considéré que le temps nous est donné gratuitement par Dieu. Et donc, nous avons un respect encore beaucoup plus grand pour le temps. On le respecte comme un don de Dieu. Et c'est vrai, c'est un don de Dieu. Là, le lien qui existe entre le temps et l'espérance, vous voyez, on relativise le temps et en même temps, on le prend avec beaucoup plus de sérieux. C'est très curieux, les deux choses ensemble. Et on n'a aucun droit sur le temps, c'est ça le relativiser. Et nous dire ce que cela modifie réellement dans le chrétien qui vit de l'espérance. Donc le chrétien et le moine. Est-ce que vous avez quelque chose à poser là-dessus? Est-ce qu'on pourrait en faire toute une conférence spirituelle? C'est pas le lieu. Si je précise simplement. Pouvez-vous préciser quelle est la signification de la durée pour le scientifique et pour le philosophe? Alors là, ça c'est très 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 délicat. La différence de la notion de temps chez le philosophe et chez le savant. Et on pourrait le prendre chez le poète. Et on pourrait le prendre pour l'amoureux. Le temps de l'amoureux, bon, c'est extraordinaire. Deux colombes s'aimaient d'un amour tendre. Et on voit très bien ça, n'est-ce pas? Et elles passent toute la nuit à côté de l'autre comme ça. Il n'y a plus de temps pour les amoureux. Le temps est brûlé par l'amour. Et quand on est en présence de celui qu'on aime, on n'a plus de temps. J'ai tout mon temps pour toi. Ça, c'est le signe de l'amour. J'ai tout mon temps pour toi. Si je suis là, mais oui, j'ai rien de mieux à faire que d'être là présent. Donc j'ai tout mon temps. Le temps est radicalement brûlé. C'est très important comme expérience. Parce que ça fait comprendre comment la pauvreté divine brûle notre temps pour Dieu. Quand vous regardez le temps de l'horizon, d'une façon un peu chiche, ça prouve que vous n'êtes pas assez pauvre. Oui. C'est l'amour qui brûle le temps. Alors, vous voyez, par le fait même, et je prends cette expérience parce que là nous l'avons tous, cette expérience-là. Quelqu'un qui vous agace prodigieusement, ben, le temps est mesuré. Je vous accorde 5 minutes. Vous devez être content, je dis que bien. Marquez quelquefois, c'est pas parce qu'il nous agace, c'est parce qu'on peut pas faire autrement. Il faut bien se dire ça. Ne faites pas l'inverse. Quelquefois, on est bien obligé de dire je peux pas plus. C'est impossible. Mais quand on pourrait plus, quelquefois ça existe. Hein, ça existe. Mais quelquefois, on le fait exprès parce qu'il y a des gens qui vous prendraient toute la journée. Les grenouilles de l'unite. Par définition, puisqu'elles sont dans le bénite, elles sont dans l'éternité. Et par le fait même, le temps ne compte plus. Alors, pour le savant, le temps se resté, hélas, je crois, à mi-chemin, et qui doit se continuer pour reprendre les degrés du de science que certains avaient commencé l'année dernière. Moi, j'aimerais bien que ça se reprenne. Pour aboutir à quelque chose, quand même. Les degrés du savoir, les degrés de science, de maritain. Beaucoup d'entre vous, il y a combien parmi vous qui avaient assisté au séminaire de l'année dernière? Il n'y en a plus beaucoup. Plus aucun. Ils ont tous disparu. Qui, vous? Et frère Pascal aussi? Non. À vous? Non. Et puis le frère Samuel? Vous avez pu rédiger quelque chose? Non. Moi, je crois que c'est un travail de longue haleine et qu'il faudrait continuer parce que c'est tellement important. Et il y aurait là un appendice sur le temps du savant et le temps du philosophe. C'est tellement important, ça. La notion du temps pour le savant, ce n'est pas en référence avec l'instant présent. Ça, on peut le dire tout de suite. Alors, c'est en référence avec quoi? Le philosophe, c'est en référence avec l'instant présent. Ça, on peut le dire tout de suite. Or, comme le temps est un ordre, il est en référence avec quelque chose, avec une mesure. Alors, quelle est la mesure du temps pour le savant? Pour le physicien, enfin, il prendra certaines réactions pour voir, par rapport au temps actuel, le temps qu'il faut. Et il projettera. Parce qu'il n'y a plus l'instant présent. Mais c'est toujours cette chose-là qu'il faut comprendre. Il y a une référence. Toujours. Le temps implique toujours une référence. Ou à l'instant présent. Pour l'amoureux, quelle est la référence du temps? Pour l'amoureux, quelle est la référence? Mais c'est l'amour qu'il a pour celui qu'il aime. Sa présence. Le temps est brûlé. Il n'y a plus de temps pour l'amoureux. Parce que l'amour a quelque chose d'éternel, l'amour spirituel a quelque chose d'éternel. Pour le savant, c'est en référence à une expérimentation. Une expérimentation actuelle. Le temps d'une réaction chimique, de transformation chimique. Et à partir de là, il projette. Il n'y a pas de référence à l'instant présent. Oui. Donc, c'est un temps conventionnel. En référence à telle chose. Et ça n'a de valeur que par rapport à cette référence. Tandis qu'au contraire, le temps du philosophe est en référence avec l'instant présent. Donc c'est un temps réel. Il y a un aspect conventionnel. Tout simplement par rapport justement à l'ordre qui existe entre le passé et le futur par rapport à l'instant présent. Je ne peux pas dire plus. Mais ce serait très intéressant de creuser. Et entre autres, reprendre le fameux problème du linceul de Turin. Puisque là, on a quelque chose qui a suscité ces querelles, ces malentendus, ces équivoques. Et c'est très intéressant de voir ça avec précision.
Pour le poète.
Ah, pour le poète, je veux dire. Vous voyez bien le temps du poète. Quand vous êtes poète, quel est votre temps? C'est votre inspiration. Vous vous évadez dans l'inspiration. Mais pour le poète, ce n'est pas une évasion. allez sentir qu'on vous évadez dans votre respiration. Quel est le temps du drogué? Il s'évade. Il a peur de l'instant présent. Il s'évade. Oui, dans l'imaginaire. C'est intéressant à voir ces choses-là. C'est que toujours le temps a une référence à l'instant présent, à une expérimentation, à une extase affective, à une inspiration. Quand je suis inspiré, on laisse dans son inspiration, peu importe, la cloche peut sonner, sauf si on est religieux, en se disant non, je dois sortir autrement. Pour une fois que j'ai une inspiration, vivons cette inspiration le plus possible. Vous voyez, je m'évade dans l'inspiration et tout est relativisé par ça.
Vous avez dit que par rapport à l'expérience du travail, que c'est là-bas que le conditionnement du côté du temps est le plus fort. Et est-ce que ce temps est mesuré par rapport à ce temps lié à l'instant présent, ou c'est une mesure conventionnelle?
Vous voyez, l'instant présent n'est pas conventionnel, il est réel. Donc le temps du philosophe implique l'intelligence qui ordonne. Mais s'il n'est pas conventionnel, parce qu'il est en référence avec l'univers.
Et le temps du travailleur?
Le temps du travailleur, le travail manuel.
Et lié à l'œuvre?
Et lié à l'œuvre, oui. J'ai fait cette œuvre en tant que temps. Alors, à partir de là, vous avez tant de temps pour faire cette œuvre. Là, ça devient artificiel. J'ai fait ce gâteau. Parce que là, on comprend tout de suite. J'ai fait ce gâteau, il m'a fallu tant de temps. Bon, demain, il y aura telle fête, vous referez le même gâteau, il fera tant de temps. Et c'est comme ça qu'on mesure. Alors, il y a une expérience réelle. Et à partir de là, on universalise, ce qui n'est pas juste, puisque le point de vue pratique ne peut pas s'universaliser. Alors, ceux qui sont très intelligents mettront un battement. Ils font à peu près ce temps-là. Mais ça dépendra de chacun. Oui. Là, vous mesurez le temps. Le mouvement est l'acte de ce qui est en puissance. Au tout, en tout, qu'il est, oui, en tant qu'il est en puissance. La mesure du mouvement est le temps. La mesure du temps n'est-elle pas les modalités de l'acte dépassant le mouvement? Et l'immanence du devenir, ne peut-on pas distinguer devant nous? Oui, ne peut-on pas distinguer devant divers moments, diverses mesures du temps en fonction des diverses modalités de l'acte? L'essai pour les réalités créées, l'opération vitale pour le vivant, bien et vrai pour les créatures spirituelles, et finalement l'acte pur, la venue du Christ qui change le calendrier, change-t-il aussi la mesure du temps? Quelle est la mesure du bientôt de Dieu? Quelle sera la mesure du temps après le mouvement? Ça fait beaucoup de questions, n'est-ce pas? Je reprends pour qu'on voit bien ces différents aspects. Le mouvement, alors ça c'est justement ce qu'Aristote dit immédiatement au chapitre 5, au livre 5. Aristote donne la fameuse définition du mouvement. Le mouvement, l'acte de ce qui est en puissance. puissance en tant qu'il est en puissance. Bon, je vais m'arrêter là, vous voyez, tout de suite, parce que c'est quand même ce qu'Aristote donne immédiatement après tout ce que nous avons vu. Chapitre, livre 5, Aristote reprend. Alors, il y a tout un petit problème, puis je reviendrai sur ça après. Il y a tout un petit problème pour nous. Nous partons de l'expérience de ce qui est mieux. L'expérience, point de départ. Je dis tout ça pour essayer de construire toujours notre philosophie de la matière. Qu'est-ce que nous devons garder d'Aristote? Qu'est-ce que nous devons laisser tomber? Or, cette philosophie, nous sommes partis de ce qui est venu au livre 5 de la physique. Aristote revient, je ne dis pas sur la définition du mouvement, mais s'il dit le mouvement, c'est l'entelechia, l'acte.
la ratio de, du mouvement à partir de tous les différents mouvements qu'il a découverts.
Oui, oui.
Comme il fait un peu tout le temps, il commence par regarder les différentes modalités, puis ensuite, il a la ratio que vous.
Alors, au plan philosophique, quel progrès voyez-vous entre l'expérience brutale, ceci est vu, et cet aspect qu'on dit définition du mouvement? En réalité, c'est pas une définition, la définition se fait par genre et différence spécifique.
Et d'un point de vue de l'être.
Quoi?
Et bien du point de vue de l'être, donc de ce qui est.
Il y a la distinction acte et puissance qui intervient. Est-ce que cette distinction acte et puissance est l'application de l'être au devenir? Vous voyez, c'est un sujet très délicat, hein, ce que je vous dis là, parce que des positions très diverses aussi. La distinction qu'on a vue en métaphysique, l'être en acte, l'être en puissance. Cette distinction est une distinction de philosophie première. Est-ce que, pour le livre 5 d'Aristote, je vois l'application de ce que j'ai découvert en métaphysique à la physique? Ou est-ce que c'est le développement homogène de la philosophie de la nature, indépendamment de la physique, indépendamment de la philosophie première? Vous voyez le problème? Puis-je, autrement dit, puis-je affirmer dans le livre 5 que le mouvement est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance, sans faire intervenir la distinction métaphysique, et donc préparant la distinction métaphysique, mais ne l'appliquant pas? Ou au contraire, dois-je dire que c'est une utilisation de la distinction métaphysique en physique? Alors vous voyez qu'à partir de ce moment-là, la physique deviendrait une partie de la philosophie subalternée à la métaphysique. Et donc il n'y aurait pas de physique. C'est pour ça que c'est très grave au point de vue, critique, les deux interprétations que je peux donner, qui ont été données. Oui.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'à l'intérieur même de la philosophie de la matière,
oui,
on aurait, à la suite de l'induction du principe,
oui,
on aurait d'abord un premier pos qui serait selon la matière, dans les quatre éléments,
oui,
et puis un deuxième pos,
oui,
selon la finalité, je ne sais pas, selon le... Comment est-ce que la nature devient dans le mouvement?
Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, voyez. Je ne crois pas du tout que c'est un retour à l'expérience, mais c'est dans ce sens-là l'utilisation de la découverte du principe, la nature, qui me donne une intelligibilité nouvelle de ce qui est mu, le mouvement naturel. Voyez, au point de départ, autrement dit, voyez, au point de départ, Aristote prend l'expérience de ce qui est mu naturellement, à la différence d'un mouvement artificiel. On peut distinguer dans l'expérience un mouvement naturel et un mouvement artificiel. Le mouvement céleste est naturel, n'est pas artificiel. Le mouvement des nuages est naturel. Le mouvement d'un arbre est naturel. Et puis de temps en temps, il y a l'intervention de l'homme qui fait qu'on est en face d'un mouvement artificiel. artificielle. C'est pas toujours commode de voir la différence entre les deux, mais en gros, on peut distinguer assez facilement. Et le philosophe, lui, très bien, dès le point de départ, faire cette distinction. Je pars d'un mouvement naturel et de l'expérience d'un mouvement naturel à la différence d'un mouvement artificiel. Le mouvement naturel me conduit à un principe immanent, la phusis. Donc, par la phusis, principe propre, causalité efficiente, causalité formelle, causalité matérielle, je peux avoir une nouvelle connaissance du mouvement, puisque je saisis le mouvement de l'intérieur. Et comme la phusis est forme et matière, je saisis le mouvement selon ce rapport de l'acte et de la puissance. La nature forme actue la nature matière. Donc je peux considérer que le mouvement, c'est l'acte qui provient de la nature forme, à l'intérieur de la nature matière. Le mouvement est donc toujours un mouvement de libération, puisque c'est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Or, celui qui est en puissance, il se libère en devenant acte. C'est sûr. Toute la théologie de la libération, c'est ça. Que enfin l'esclave atteigne sa finalité et se libère de cet état d'esclavage qu'il met dans la potentialité. Donc, le chapitre 5, vous voyez, traduit la découverte de la nature, matière et forme dans le dynamisme du devenir. À ce point de vue-là, il y a un progrès. Il fallait découvrir la nature forme et la nature puissance pour pouvoir comprendre que le mouvement, c'est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Pour comprendre que le mouvement naturel est un mouvement immanent, mais un mouvement immanent qui tend vers sa finalité, pour libérer ce qui est mu. Autrement dit, le monde physique s'actue par le mouvement. Pour le monde physique, être en mouvement est une finalité. Ça le finalise. Vous ne pouvez pas finaliser autrement le corps qu'en marchant. Et vous le libérez de l'état potentiel dans lequel il est. C'est pour ça que vous êtes engourdi quand vous vous mettez à dormir. Tandis qu'au contraire, quand vous mettez à marcher, vous le libérez. La marche libère. Parce que c'est un mouvement, l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Donc, vous voyez, c'est bien, j'allais dire, une conclusion philosophique de ce qui m'était donné au point de départ dans l'expérience. J'ai une lecture nouvelle, on dirait ça, en style moderne. J'ai une lecture nouvelle de ce qui est mu. Ce qui est mu m'apparaît comme un acte. Mais un acte qui demeure dans ce qui est en puissance, en tant qu'il est en puissance. Oui.
Mais est-ce qu'Aristote ne pouvait pas faire ça tout de suite après la découverte du principe ? Pourquoi est-ce qu'il...
Très bonne question. Il passe par la mesure avant d'arriver à l'acte. Vous voyez, le lieu et le temps sont des mesures. Je crois que c'est à cause de l'opacité du monde physique. Vous voyez, Aristote, distinguant la phusis, forme assez déficient, découvre à partir de la forme la fin. Et à cause de la matière, maintient le hasard. La plupart du temps, le monde physique n'atteint pas sa fin. Tu vois, de temps en temps, il n'atteint pas sa fin. La plupart du temps, il l'atteint grâce à la forme. Utile pluribus, il atteint sa fin. Mais il y a le hasard. Le hasard existe. Et le hasard est ce qui lutte contre la finalité. Ce qui empêche la finalité de triompher. Donc on montre que dans le monde physique, la finalité ne sera jamais triomphante, éclatante. Il y aura toujours le ricanement de la matière par le hasard. Ça, c'est le ricanement de la matière. C'est le murmure de la matière. Elle dit, vas-y, vas-y, je te rattrape. Et il empêche que tu atteins la fin. Il y a le hasard. Et c'est très vrai, c'est ça le hasard. C'est montrer la fêlure du monde physique. Vous n'arriverez jamais à un déterminisme absolu dans le monde physique. Il y aura toujours le hasard. Il y aura toujours la fêlure. On détermine ça. J'ai donc la causalité finale, la causalité formelle, la causalité matérielle, la causalité efficiente. J'ai la découverte des cinq causes. La découverte des cinq causes me permet une nouvelle lecture de ce qui est mu. Mais comme, comprenez bien, comme la finalité est vue à partir de la forme, matière-forme, j'essaie de mieux comprendre ce point de vue de la forme. Et c'est, je crois, à cause de ça qu'il y a le lieu et le temps, qui sont des mesures. Qu'est-ce que c'est que la mesure? C'est la cause exemplaire. C'est la forme, non pas immanente, mais extrinsèque, qui donne une intelligibilité nouvelle. Le lieu et le temps donnent une nouvelle intelligibilité au mouvement. Une intelligibilité partielle, mais quand même. Et c'est pour ça que, avant d'avoir un regard proprement philosophique, et vraiment philosophique, sur le mouvement, je regarde le lieu et le temps. Et je peux, à ce moment-là, montrer le point de vue de l'acte. Je crois que c'est ça, pour moi. Le mouvement, c'est l'acte de ce qui est en puissance, en tant qu'il est en puissance. J'aurais pu le dire tout de suite, dès que je vois que la nature est fin. Si la nature est fin, elle est acte. Mais étant donné la difficulté qu'il y a pour découvrir vraiment ce point de vue de la fin à partir de la forme immanente, et vous comprenez très bien, parce que la forme immanente n'est pas entièrement fin. La fin demande un dépassement. Alors est-ce que ce n'est pas ce double dépassement du lieu et du temps qui va me permettre de préciser que le mouvement est l'acte.